Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Europe Soir avec deux grosses actualités pour ce dimanche soir. Non pas pour clore le week-end, loin de là, parce qu'il va en être beaucoup, beaucoup question dans les semaines à venir. Et cette première actualité qui va nous occuper de 18h à 19h, c'est quelle droite au second tour. Jusqu'en octobre, on disait le match est plié, le second tour c'est Macron-Le Pen, évidemment. Depuis octobre, on dit c'est Macron-Pécresse. Aujourd'hui, non seulement on n'en est plus si sûr, mais l'hypothèse de départ semble revenir au galop. On en parle d'autant que plusieurs éléments de ces dernières 24 heures semblent aller dans ce sens. Zemmour à la traîne dans les sondages et les parrainages continuent sa campagne et se voient rallier des cadres comme Guillaume Pelletier. Pécresse divise dans son camp, certains LR la trouvent pas assez droitière et pourraient soutenir quelqu'un d'autre. Quelle droite au second tour ? Celle de Marine Le Pen ou celle de Valérie Pécresse ? Et dans chacun des cas, qu'est-ce qu'il y a dans la pâte à gâteau ? On en parle pendant une première heure, 100% politique avec un juge de paix, le dernier sondage IFOP JDD. Après le journal de 19h, l'autre grande actualité sous forme de questions, c'est est-ce le grand retour en arrière en matière sanitaire ? Le témoignage ce matin de l'épidémiologiste Renaud Piarou dans le JDD Laisse de glace. La situation actuelle ressemble étrangement à l'apparition du variant Alpha. Les hypothèses de 7 à 9 000 cas de Covid en réanimation ont été balayées, dit-il, par la puissance publique. Le gouvernement, justement, vient en aide aux pharmaciens débordés en remettant en place des grands centres de dépistage. Tout cela a tristement un air de déjà-vu. Et au bout de 2 ans de Covid dans le monde, les Français en ont marre. Ils se demandent comment on en est là, avec 3 doses de vaccin. Ajoutez à cela une fureur anti-vax qui semblait éteinte et qui pourtant est toujours là à vouloir mettre le doute. À l'aube de 2022, qui se profilait sous le signe de l'apaisement, on commence l'année avec des tensions, des violences allant jusqu'aux menaces de mort. Pour preuve, les députés, en premier lieu de la majorité, recevant des poupées vaudou, des lettres et des mails, des coups de fil disant « je vais finir par tirer dans le tas ». Deux grands sujets d'actualité dont on parle ce soir avec Prisca Thévenot. Bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole de La République En Marche. Bonsoir à Philippe Doucet.
Bonsoir.
Membre du bureau national du PS. Bonsoir à Ludovic Taureau, médecin et maire UDI de Coubron.
Bonsoir.
Bonsoir à Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur opinion à l'IFOP. Dans le reste de l'actualité, prudence dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes où de très importants cumuls de précipitations sont attendus ce soir. Les deux départements ont été placés en alerte rouge pour les crues. La gave de l'Oron qui s'écoule depuis les Pyrénées dans les deux départements pourrait connaître des débordements très importants à partir de demain matin. Dans le sud-ouest, 5 autres départements sont en vigilance orange, en plus d'Andorre, 2 autres au nord, le Nord en l'occurrence, et l'Aisne. À minuit, heure française, une audience va déterminer si Novak Djokovic peut ou non participer à l'Open d'Australie. Ses avocats affirment que son exemption médicale est valable puisqu'il a été récemment infecté par le Covid. Côté gouvernement australien, son combat juridique est voué à l'échec pour la même simple raison que le numéro 1 du tennis mondial n'est pas vacciné, affirment les avocats du gouvernement de Canberra. Le sport encore avec Quentin Fillon-Maillet, de nouveau leader de la Coupe du Monde de biathlon. Le Jurassien signe à Oberhof sa 3e victoire de la saison dans la poursuite. Le foot, 20e journée de Ligue 1. Nice s'empare de la 2e place en battant Brest 3-0. Clermont-Reims score nul 0-0. Strasbourg a battu Metz 2-0. Montpellier 3 a dû être reporté à cause des intempéries justement dans le sud-ouest. Et en ce moment, Nantes affronte Monaco et ce soir, OL-PSG à 20h45. Il est 18h.
Europe Soir Weekend, 18h-20h.
Pierre de Villeneuve. Je vous le disais en préambule, les cartes sont rebattues, pas définitivement, non, mais les deux grandes hypothèses du second tour, Macron-Le Pen et Macron-Pécresse, sont maintenant au coude à coude. On va en parler avec Frédéric Dabi de l'IFOP dans un instant. Mais une des raisons primordiales, et qu'on a encore évoquée ici même dans Europe Soir, pas plus tard qu'hier, après la conférence de presse de Valérie Pécresse, c'est le manque d'impact de la candidate LR. Elle n'imprime pas, disent certains. Elle n'est pas suffisamment droitière, disent d'autres. Et Guillaume Pelletier, jusqu'à présent cadre LR, quitte le navire et rejoint Éric Zemmour. Écoutez, c'était ce matin sur Europe 1 dans le grand rendez-vous piloté par Sonia Mabrouk.
Je suis le premier et pas le dernier. C'est le début d'une vague montante. C'est énormément d'adhérents Les Républicains qui veulent que ça change, qui considèrent que celui qui est le plus proche de nos convictions Celui qui porte la stratégie la plus opérationnelle et celui qui est le plus courageux, c'est Éric Zemmour. J'ai rencontré Valérie Pécresse le 8 décembre dernier. Je lui ai posé un certain nombre de questions, ça a duré près d'une heure et demie. Et entre autres, une question majeure pour moi. Est-ce qu'elle s'engage, à l'inverse de ce qu'elle a fait en 2017, à ne pas soutenir, à ne pas rallier Emmanuel Macron en 2022? Nous sommes le 9 janvier. Je n'ai pas eu la réponse.
Bon, c'est difficile de se concentrer, je le viens, sur la seule opinion de Guillaume Pelletier, mais vous l'avez entendu, il dit « je ne suis pas le seul, je ne suis pas le dernier ». Donc, qu'est-ce qu'on en pense, Frédéric Dabi?
Guillaume Pelletier, ce ralliement fait du bruit dans le microcosme. Il fait plus de bruit, sans doute, qu'auprès de l'ensemble des Français. Je rappelle que Guillaume Pelletier, alors, il était numéro 2 de chez LR. Il a soutenu au début de la campagne du congrès Xavier Bertrand avant de le quitter, mais il y a encore quelques mois, on le testait dans le baromètre Ifo Fiducial pour Paris Match, et on avait en gros 6 Français sur 10 qui déclaraient ne pas le connaître et être dans l'incapacité à se prononcer. Maintenant, je ne sous-estime pas l'événement, c'est une première prise de guerre pour Éric Zemmour. Je trouve qu'on va un petit peu vite à double titre. D'abord, lorsqu'on ne parle que du second tour, je ne mets pas en cause votre introduction, mais les cimetières électoraux sont remplis de candidats qui ont enjambé le premier tour et qui sont focalisés sur le second tour. Deuxièmement, on va un peu vite en disant à 80 jours du vote, demain ça sera 3 mois pile du premier tour, que Valérie Pécresse connaît une dynamique, connaît des difficultés. En tout cas, on a une...
C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait en reparler dans les semaines suivantes.
Je finirai sur un point. Ce qui frappe dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est que derrière Emmanuel Macron, très solide autour de 25-27%, on a un ticket d'entrée pour le second tour qui est très bas, qui n'a jamais été aussi bas depuis le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen était passé avec 17% contre 16,8% pour Lionel Jospin. Donc on a un ticket d'entrée bas, donc on a une incertitude. Zemmour, Pécresse, Le Pen.
Philippe Doucet.
Bah, écoutez, dans les mercenaires, moi je connaissais Bob Denard, on connaît aujourd'hui le groupe Wagner. Eh ben, il peut monter une boîte de mercenaires, hein, Guillaume Pelletier, parce que, sauf erreur de ma part, il a été au Front National. Et après, il a été avec Philippe de Villiers. Il a rejoint les Républicains. Il était sarkozyste. Enfin, il a à peu près fait tout le tour de la Terre. Je viens même de lire sur Twitter qu'a priori, il a même été proposé ses services à Marine Le Pen, qui a dit « mais moi, je veux pas de chien sans collier ». Donc, voilà.
Il a commencé sa carrière au FNJ. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne vous l'ai pas fait écouter, mais on va l'écouter puisque vous insistez. C'est Marine Le Pen à Carcassonne au micro de Victor Chavard, justement sur cette défection de Guillaume Pelletier.
Ça ne m'étonne pas de lui. Lui, il aura coché toutes les cases. Hein. Il aura fait tous les mouvements politiques. Notre ami Guillaume, bon, bah, écoutez, c'est bien. Oui, ouais, bon, écoutez, c'est un épiphénomène. On parle aujourd'hui de choses beaucoup plus importantes. Que les changements de chapelle de Guillaume Pelletier, qui par ailleurs sont très fréquentes. Je pense qu'Éric Zemmour terminera en dessous de 10%.
Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Avec cette petite info quand même, je regarde le sondeur Frédéric Dabi, Éric Zemmour qui finira sous les 10%. Mais je vous laisse poursuivre.
Oui, bah, voilà, donc il a FNJ, Philippe de Villiers, les Républicains,
oui,
là,
donc
plusieurs chapelles sur les Républicains.
Ce que je veux dire, c'est au-delà de la seule parole, de la seule déshérence de Guillaume Pelletier, apparemment, et il n'y a pas que lui qui le dit, voilà, il y a une sorte de frémissement dans la droite en disant, ben voilà, est-ce qu'on écoute suffisamment ce que dit Éric Ciotti? Est-ce que, voilà.
Ah non, mais ça, c'est pas encore la même chose. Il y a deux choses.
Ah bah
il y a le problème de la ligne politique de Valérie Pécresse. Il y a, après les épiphénomènes, parce que je pense que Guillaume Pelletier, c'est un épiphénomène d'un individu qui s'est fait sortir.
Il vous a pas échappé que c'est Éric Ciotti qui est arrivé en réalité le grand vainqueur des LR, puisque c'est lui qui avait fait un score et personne ne l'attendait. Enfin, certains observateurs l'attendaient. On en parlait beaucoup dans les grandes voix d'Europe 1 avec mes 4 grandes voix du samedi matin. Mais il y a quand même cette mouvance de la droite qui dit, voilà, Valérie Pécresse, elle a tenu une conférence de presse hier matin et bah, on ne sent pas cet élan
La difficulté, c'est
droite,
Valérie Pécresse.
Hein,
oui, mais parce que la difficulté de Valérie Pécresse, c'est qu'elle est plutôt du centre-droit initialement. Elle a même quitté les Républicains quand il y avait Laurent Wauquiez, parce qu'elle
trouvait
trop à droite. Et là, il faut qu'elle
aille
chercher plus à droite. Donc à un moment donné, en politique, aujourd'hui, la non-authenticité, ça se voit.
Alors, un homme du centre va parler, Ludovic Toro.
Le mercato des présidentielles est ouvert. Ce sera tous les partis qui vont essayer de pêcher le plus. Mais comme vous dites, c'est un épiphénomène. Je veux dire, quelqu'un qui passe de FN, MNR, de Villiers LR, je vous assure, on ne l'a pas pris à l'UDI, ça c'est une chose certaine, et on ne le prendra jamais.
Pourquoi il a frappé à la porte?
Jamais il ne le frapperait. De toute façon, la porte, il ne la trouvera pas tellement qu'elle sera dans le noir. D'accord, chose certaine. Bon, non, c'est un épiphénomène. Il y a une prise chez Mme Le Pen, il y a une prise chez Zemmour. Voilà, ça va continuer. Quant à Valérie Pécresse, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans les mots, aussi bien présidentiels que les attaques. Donc, il faut qu'on descende sur un débat de fond et d'idées. Et hélas, on ne l'a pas encore mis en place. Et ça, il faut le mettre rapidement pour les Français, je pense. Voilà. Maintenant, on va dire à Valérie Pécresse, c'était pas trop à droite. Vous savez très bien que toutes les victoires, aussi bien à gauche et à droite, se sont faites avec un rassemblement large. Donc, évidemment, il y aura du centre-droit et peut-être du droit-droit. Voilà, c'est tout le travail de Valérie Pécresse.
Mais le centre-droit, il a été happé par Emmanuel Macron.
L'UDI, le centre-droit, est totalement autonome. Au conseil régional, avec ma collègue Prisca, on est autonome, donc il n'y a rien de happé. On est là. Prisca, et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on n'a pas encore appelé aujourd'hui pour qui on voterait. Ça va le faire bientôt, mais on ne l'a pas encore.
Prisca Thévenot.
Non, moi, c'est plutôt, effectivement, moi, je vais rejoindre, en réalité, c'est un épiphénomène, ce qui s'est passé ce matin. En revanche, c'est dans la séquence dans laquelle ça s'inscrit que là, ça peut effectivement prêter à analyse et à quelques étonnements. Parce qu'on a commencé quand même cette semaine avec un peu cette espèce de débâcle à l'Assemblée nationale sur le banc des Républicains, où on a eu une patronne, parce qu'aujourd'hui la patronne, il faut le dire, c'est Valérie Pécresse, qui annonce le lundi matin très solennellement « je voterai pour le pass vaccinal ». Et puis finalement, on se rend compte trois jours plus tard que parmi ses rangs, ce n'est pas si évident que ça, voire pas du tout évident. Et là, dimanche, on arrive encore sur une séquence où dans ses rangs, il y a de la désertion, voire même pire, c'est de la désertion en disant « je ne suis que le premier ». Donc c'est plutôt sur ça que ça pose problème. Et là, véritablement, le but, je pense que ce n'est pas d'accabler Valérie Pécresse, parce que je pense qu'il faut aussi, quelque part, que tous les hommes, et là je vais le dire de femme à femme, tous les hommes qui sont derrière, peut-être la laissent aussi faire campagne. Oui, effectivement, bon. Si c'est Éric Ciotti...
Vous avez l'impression qu'elle est empêchée ?
J'ai pas l'impression qu'elle soit très à l'aise dans sa campagne.
C'est-à-dire ?
Quand on regarde la conférence de presse qu'elle a faite, c'était vendredi, si je ne me trompe pas.
C'était hier matin.
Ou c'était hier, pardon,
hier
excusez-moi,
matin,
c'était hier.
Matin.
Le temps passe vite. je trouvais ça étonnant qu'elle se met au micro, elle commence à parler, et puis bim, elle se retire pour laisser la place à M. Larcher. Et puis tous ces hommes derrière...
Non, elle reprend même... la parole après Gérard
oui,
Larcher.
Oui, mais on va être très clair.
Gérard Larcher
aujourd'hui...
a chauffé la salle, comme on dit.
Oui, enfin, Gérard Larcher est tout sauf un chauffeur de salle. Quand même.
Oui, bon, ça, c'est un autre problème.
Non, mais ce que je veux dire,
Voilà.
Toutes mes amitiés. Non, voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est pas juste un sentiment farfelu qui m'est arrivé ce matin en me levant. C'est quand même un ressenti qu'on est nombreux à avoir depuis quelques temps. C'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense. Et quelque part, la présidentielle, ça reste quand même une rencontre entre une personnalité, une vision, un projet et les Français. C'est pas comme la campagne des régionales où on a besoin d'avoir une équipe, on a besoin d'avoir une dynamique, etc. Donc c'est pour ça que là, et là je le dis de façon très ouverte, c'est qu'on a besoin, et là je vais rejoindre mon collègue Ludovic Toro, on a besoin enfin de comprendre ce qu'elle veut, quelles sont ses positions pour pouvoir peut-être avoir des débats de fond.
Philippe, pardon,
oui. Moi je ne crois pas à l'histoire du rassemblement. Ça a valu par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on est dans une logique de fracturation plutôt. Quand on regarde le sondage, y compris quand Emmanuel Macron il parle d'emmerder les Français, finalement, il consolide son socle à lui et il ne consolide pas le socle de toute façon qu'il a
aux autres.
Voilà, qui déplaît aux autres. Donc, le niveau de fracturation. Donc, aujourd'hui, le problème qu'a peut-être Valérie Pécresse, c'est à droite, les gens veulent une ligne de droite dure et elle, il faut qu'elle l'incarne avec une authenticité. Or, la difficulté, comme elle n'est pas de droite dure naturellement, elle a un problème d'authenticité. Mais je ne crois pas à la logique du rassemblement aujourd'hui. Parce que la règle, en tout cas depuis 2017, même un peu avant quand on remonte, en fait, personne ne va gagner cette élection avec 51% de force positive. C'est ça la réalité.
Mais vous ne croyez, quand vous dites « je ne crois pas au rassemblement », c'est rassemblement de qui ?
Non, mais quand Ludovic Toro dit « on va faire en gros de la droite-droite au centre à l'UDI », c'est ce que doit faire Valérie Pécresse. Ça, en fait, les gens, ils ont pas envie. Les gens de droite, ils veulent plus du centre droit. Ils veulent quelque chose. Ils veulent
Chacun en prend pour sa
Attendez, qu'un socialisme. Attendez, qu'un socialisme. Dites-moi. On va parler peut-être du Parti Socialiste, on va rigoler là.
Non,
mais c'est normal, cette attaque. Mais attendez, vous savez la
sensation. C'est pas une attaque, c'est un constat, c'est même pas une attaque.
Pas tous en même temps.
C'est même pas une attaque.
La seule question, et vous le savez très bien, c'est qui sera le deuxième. Point final. Oui. Le reste, rassemblement, pas rassemblement, c'est qui sera deuxième. Et tout ce qu'on se fera en termes de mercato et tout ce qu'il y a, ça sera ça. Et ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, ce ne soient pas les programmes qui feront ce deuxième. C'est ma seule peur. Voilà.
Frédéric Dabi, est-ce qu'on peut dire, je l'ai dit en préambule et Philippe Doucet aussi, la droite, c'est la droite dure. Est-ce qu'on va réussir à faire ce rassemblement autour d'une droite dure et en agrégeant toutes les droites?
C'est vrai qu'on a d'un côté du fait de l'effacement relatif d'une partie de la gauche. On parle aujourd'hui de la droite, mais n'oublions pas que de l'autre côté...
C'est un doux euphémisme.
Si je mets de côté... l'effacement, ce n'est pas un euphémisme, c'est un terme très fort. Puisqu'on a, on a un total gauche. Si je prends l'enquête IFOP Fiducial pour le Figaro diffusé jeudi, on a un total gauche qui est à peine à 25%. Donc, ça se passe à droite. Mais la question, c'est, ça se passe où? Est-ce que c'est la droite Macron? Je vois qu'Emmanuel Macron arrive à prendre un électeur Fillon sur cinq. Est-ce que c'est la droite Canal historique, si je puis dire, Valérie Pécresse, qui, je serais vraiment moins sévère que ce que je viens d'entendre sur le fait qu'elle a commencé sa campagne tard, compte tenu du contexte. Oui. Elle a été désignée le 6 décembre, il y a eu les fêtes. Elle a quand même réussi à avoir une sorte de poussée dans les enquêtes d'opinion qui fait qu'elle tangente le second tour. C'est elle qui, au second tour... ferait le meilleur score face à Macron. Si je prends l'enquête IFOP JDD de ce matin, alors, ce n'est qu'une enquête, c'est une question un peu politologique, mais les Français, un Français sur deux, et y compris chez En Marche, ils sont 40% à pronostiquer qu'elle pourrait mettre en difficulté ou battre Emmanuel Macron au second tour. Mais c'est vrai qu'il y a une bataille des droites. Quelle droite? Celle d'Emmanuel Macron, qui prend toujours à gauche, celle de Valérie Pécresse, celle d'Éric Zemmour, qui arrive à capter 15% des électeurs Fillon, ou une droite extrême incarnée par Marine Le Pen. C'est ça, j'avais cité une fois Alfred Jarry qui disait dans Ubu Roi, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. Ça se passe en France, ça se passe où aujourd'hui? Ça se passe à droite, ça se passe où? Dans quelle droite? Et maintenant, un des indicateurs qu'il faudra suivre, c'est la capacité de Valérie Pécresse à faire revenir sur son nom l'électorat de François Fillon. Elle était à 38-40 avant le congrès, elle est maintenant à 57, ça paraît intéressant. Mais il y a encore de la déperdition. Premier défi pour elle. Deuxièmement, c'est élargir ce socle de droite. Parce que elle, comme le François Fillon de 2017, voire comme le Nicolas Sarkozy de 2012, est faiblissime chez les jeunes, dans les catégories populaires et dans le salariat. Et la droite, la présidentielle, ça se gagne aussi avec la France du travail.
Salage de l'électorat, on l'avait déjà mentionné, donc ça veut dire que depuis deux semaines, rien de nouveau sous le soleil?
Non, parce que ça ne bouge pas. Et il ne faut pas oublier qu'une majorité de Français ne sont pas encore vraiment dans l'élection présidentielle. Il y a un temps de décantation.
Ils sont dans le Covid, mais le Covid, c'est le personnage principal de la présidentielle. On en parlera en deuxième.
Vous avez raison.
Oui.
En même temps, je pense que je partage pour le coup ce que Ludovic Thon a évoqué. Je ne suis pas sûr que ça soit sur les logiques de projet. Le vrai sujet, c'est à droite, ça va être la question du vote utile. Si l'électeur de droite se dit « Bon, nous, on veut dégager Macron parce que c'est insupportable. Mais... » Bon, si c'est Valérie Pécresse qui arrive à prendre ce totem-là, bah, ils lâcheront Zemmour, ils lâcheront Marine Le Pen pour aller chercher le vote anti-Macron. Voilà, donc il faut qu'elle arrive à cristalliser ce que Hollande avait réussi à faire en 2012, le vote anti-Sarkozy.
Oui, mais c'est même là qu'ensuite critiqueront la politique de Valérie Pécresse, puisque c'est la politique qu'ils ne voudront pas.
Peut-être, mais enfin, pour moi, dans ce cas-là, elle sera peut-être au pouvoir. Après, elle aura gagné. Le sujet, c'est le problème qu'a eu Hollande en 2012. C'était autant un vote anti-Sarkozy qu'un vote pro-Hollande. Et qu'après, c'est compliqué à gérer. Donc, on sait bien qu'on a cette situation-là, puisqu'on a,
de toute façon, on a une démocratie éclatée. Rien ne se passe comme prévu de Laurent Binet.
On se rend bien compte, de toute façon, vous l'avez dit, la seule qui pourrait battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. D'accord. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, parce que le staff et l'REM, aujourd'hui, vous avez vu, Prisca, ma collègue, d'emblée, l'a attaqué Valérie Pécresse.
C'est-à-dire, vous dites toujours Prisca, ma collègue. Pour qu'elle soit conseillère régionale avec vous.
Parce qu'on s'entend bien.
Voilà, on
a le droit de débattre et bien s'entendre. Ouais,
on a eu des moments un peu plus durs, maintenant des moments un peu plus doux.
Ça nous intéresse.
Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui.
C'est Dallas.
Sur tous les plateaux aujourd'hui.
C'est Dallas au conseil régional.
Oui, mais c'est Valérie Pécresse qui a gagné. Donc c'est un préambule. À la prochaine fois.
Attendez, Ludovic, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, je voulais dire qu'aujourd'hui, la cible, si vous voyez sur les télévisions, pour le staff d'Emmanuel Macron, c'est pas péjoratif, c'est Valérie Pécresse. Là, ça fait une semaine qu'on ne parle plus de Zemmour et de Le Pen, on parle de Valérie Pécresse.
Ah si, c'est pas vrai, on parle de Zemmour
oui,
aussi.
Oui, je parle de LREM. Parce que c'est évident, mais je ne le critique pas. On le sait tous aujourd'hui que la seule qui pourra battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Qu'elle y arrive ou qu'elle n'y arrive pas, vous ne savez pas un ici sur le plateau dira le contraire. Ok, il faut un peu d'honnêteté, même Prisca.
Je vais réagir sur le principe du on s'acharne sur Valérie Pécresse ou c'est notre cible. C'est pas réellement vrai. C'est parce que c'est celle qui a fait le plus parler d'elle cette semaine. Et je viens d'expliquer pourquoi. Et les débats à l'Assemblée, il y a eu après il y avait un autre sujet intéressant pour le coup que j'ai pas mentionné là, mais qui est intéressant, c'est elle a fait une première proposition par rapport à la justice, etc. Elle a eu des grands moments forts médiatiques la semaine dernière. Donc il est tout à fait normal qu'on les commente. Maintenant, venir dire qu'on est monomaniaque sur elle, c'est pas vrai. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a fait un entretien, on l'a regardé aussi. Je vais être désolée de le dire, mais notre monde ne tourne pas autour de Valérie Pécresse au sein de la majorité présidentielle.
Alors, est-ce que je peux poser juste une question ?
Vous êtes chez vous, Ludovic.
Cher Prisca, quel est Ludovic. Le candidat ou la candidate la plus dangereuse pour Emmanuel Macron, selon toi ?
Eh bien, moi, je vais te dire très clairement, avant les vacances de fin d'année, je pensais que c'était elle. Mais là, honnêtement, je n'arrive plus à savoir ce qu'elle pense.
Ah non, il faut une réponse. Non.
Bah non, bah moi,
c'est-à-dire
je sais
que j'arrive pas à savoir ce qu'elle pense.
En fait, je sais pas ce qu'elle. Valérie. En fait, je pensais qu'on allait revenir avec, par exemple, typiquement, elle arrive cette semaine, ses grandes sorties, c'est. Je vais faire un coup de je vais ressortir le Karcher et
oui.
Je vais mettre
à la cave depuis 10 ans.
Voilà, et je vais créer des prisons.
Attendez, laissez la réponse.
Non mais je réponds et je vais créer des prisons en carton. Et là je me dis OK, en fait la deuxième proposition, je vois pas trop où elle veut en venir et la première proposition, c'est pas la sienne, c'est une de Nicolas Sarkozy. Donc en fait, ce qu'on attend aujourd'hui, mais ça va sûrement venir Ludovic Toro, c'est où va-t-elle aller ? Que veut-elle faire ? C'est surtout ça en fait.
Ah bah je suis assez content de cette question.
Ludovic Toro.
Puisque j'ai le programme d'Emmanuel Macron, il ne me quitte pas, c'est depuis 5 ans.
C'est bien.
Et on parle de prison, merci beaucoup.
Ah, parlons-en.
15 000 nouvelles places. Ah, pas de chance. 2275 à la fin.
Et
donc,
la suite ?
Il faudra parler.
Faux ce que vous dites.
Oui, d'accord, c'est faux. C'est ça qu'ils vont attendre. C'est prendre le programme et les promesses de M. Macron.
Parlons-en de ce point-là par exemple.
On fera ça, on en parlera, point par point, et ça sera au candidat de le faire.
Vous le mettez sur la table, c'est malhonnête, là.
Écrit sur votre papier.
C'est simple, on avait le 1er mai 2017, 50 848 places de prison, on en est aujourd'hui à 60 775.
La promesse était de 15 000 places de prison, oui. Vous avez tout à fait raison. Nous en avons fait 2 275, 3 000 sont en construction, à Caen, à Avignon.
Mais laissez la réponse, vous êtes d'une inélégance.
Vous l'avez déjà dit la dernière fois.
Non mais ça vous dérange. Ludovic, surtout, ce qui est intéressant, c'est que là on parle de fond. Voilà, donc moi je suis plutôt contente qu'on arrive sur des sujets plutôt que de commenter des chiffres en permanence. C'est que oui, il y avait 15 000 places de prison prévues, 2 200 et quelques sont déjà sorties de terre, 3 000 sont déjà, 3 000 ou 5 000, je ne sais plus, mais les chiffres, vous les retrouvez, sont en cours de construction et les autres, les terrains sont identifiés, donc ça va démarrer. Donc je vais dire, là, c'est un mauvais argument ou un mauvais point d'attaque puisque, pour le coup, c'est fait. Et Valérie Pécresse le dit elle-même, on ne sort pas 15 000 places de prison en 5 ans. Donc nous avons déjà engagé les travaux et ou fini sur ce point de programme.
Une courte réponse, Ludovic Toro.
Une courte réponse. Il a promis dans son quinquennat 15 000 places, il y en a 2275.
Elles sont engagées.
S'il vous plaît, c'est tout. C'est le factuel. Tous les citoyens, ils veulent des vérités.
Parce que vous pensiez qu'on allait construire 15 000 en 5 ans.
Moi, je ne suis pas Emmanuel Macron, j'ai rien
promis.
Je ne suis pas dans le BTP.
Vous savez, quand on veut faire quelque chose, on le fait. Mais sinon, on ne promet pas. Pourquoi les citoyens ne vont plus voter aujourd'hui ? Parce qu'on leur fait plein de promesses et on n'était pas.
Non, les citoyens ne sont pas bêtes.
Prisca, je vous ai posé une question.
Sur ce sujet-là,
c'est intéressant. Je vais faire une toute petite phrase par rapport à ce que dit Ludovic Toro. S'il y a une critique qui n'est pas associée au quinquennat Macron, c'est les promesses non tenues. Sincèrement, quand on travaille, par exemple, dans le baromètre IFOP JDD, où on interroge spontanément les Français, on reste en famille, on interroge spontanément les Français sur leur raison de mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il y a toute une série de sujets, l'absence de résultats, la gestion de la crise, sa personnalité, mais la question des promesses non tenues ou de l'inaction apparaît de manière très marginale, beaucoup moins que François Hollande sur l'inaction, et bien sûr, infiniment moins que Nicolas Sarkozy, qui a eu pendant tout son quinquennat le scotch, si je puis dire, le scotch des promesses non tenues.
Première pause dans les débats d'Europe Soirée. On revient dans un instant avec Ludovic Toro, Prisca Thévenot, Frédéric Dabi et Philippe Doucet. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table, Frédéric Dabil, directeur opinion de l'IFOP, avec Ludovic Toro, médecin et maire UDI de Coubron, Philippe Doucet, membre du bureau national du PS, et Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. On parlait d'Éric Zemmour. Je disais effectivement qu'il était encore bien positionné dans les sondages. Il table à 18%. Pourtant, il n'a pas les parrainages. Et sans offus, qu'il a demandé un arrangement au président de l'AMF. C'était dans la semaine sur Europe 1. Anne Hidalgo, ce matin, sur Europe 1, chez Jean-Pierre Elkabbach, a dit... Tant pis pour lui.
C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer.
Et vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie?
Ah non, vraiment
que des gens
pas.
Qui représentent, eux, 13, 14% et 18%,
aussi,
soient pas.
La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer.
Tant pis pour eux.
Et la loi, c'est la démocratie.
Tant pis pour eux.
Oh oui, tant pis pour eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires.
Et voilà, des grands yeux presque à Thévenot.
Pardon, mais je suis désolée, je disais ce que je disais pendant que je l'écoutais, et tout le monde sait que je ne suis pas du tout pro-Zemmour, mais là je trouve Anne Hidalgo un petit peu gonflée. Quand on est à 13% dans les intentions de vote et qu'on ne peut pas se présenter à une élection présidentielle, ça pose un problème démocratique. Donc elle se satisfait qu'à 3% elle puisse se présenter, tant mieux. Mais elle devrait quand même s'interroger sur l'exercice de la démocratie et faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc non, il y a un sujet à se poser. Il faut effectivement que les candidats qu'on teste depuis un certain nombre de semaines, de mois, puissent tous se présenter à cette élection qui est importante. Et je trouve ça un peu étonnant de la part de quelqu'un qui veut se présenter à l'élection présidentielle, de limite ne même pas considérer ce sujet et de botter en touche de façon en plus pas très élégante, je trouve.
Philippe Doucet.
Moi, je pense que c'est un faux débat, parce que Zemmour aura ses signatures. Parce que je rappelle quand même pour nos auditeurs, il y a presque 36 000 maires en France. Donc ça fait quand même un corps de signataires extrêmement important. Les conseillers départementaux, voilà.
Pardon ? Ça fait environ 40 000.
Voilà, 40 000, donc ça serait bien le double s'ils ne trouvent pas les 500. Par ailleurs, au cas où, parce que Marine Le Pen et son père nous ont fait le coup aussi plusieurs fois, bon là aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et même dans l'hypothèse où il en manque 50, je suis à peu près sûr que les maires, les Républicains, feront un effort et que Valérie Pécresse passera quelques coups de fil pour que Éric Zemmour ait les 50 signatures qui lui manquent, parce que... ils ont absolument besoin qu'il soit candidat pour minorer le score de Marine Le Pen. Donc Éric Zemmour aura ses signatures. Mmh. Voilà, donc ça fait partie du théâtre de la présidentielle. Marine Le Pen nous habitue à ça. Bon, Éric Zemmour le fait aussi.
Mais ça vous attriste pas quand même, Anne Hidalgo, quand elle parle comme ça ce matin sur Europe 1?
Non, mais parce qu'elle rappelle les règles de la loi. Si vous voulez, c'est un peu fatigant. Ouais, les règles de la loi, c'est les règles de la loi.
Après,
il les aura. Après, il les aura. Les aura, c'est un faux débat. Il les aura.
Ludovic Toro.
Oui, je suis d'accord avec Prisca Thévenot. Je veux dire, il faut que les gens qui se présentent représentent la population. Je veux dire, sinon, ce n'est pas possible. Parce que même si ce n'est pas 12%, même si ce n'est pas 11%, 10%, c'est beaucoup, 10% d'intention de vote. Donc là, il y aura peut-être ce cinéma. Quant à Anne Hidalgo, qui aura plus de parrainage que de voix, je veux dire, elle ferait mieux de voir un peu les choses différemment. Non, mais c'est.
On en reparle,
d'accord, mais je ne crois pas qu'elle va exploser, d'accord, dans ces prochaines élections, et je ne crois pas qu'elle sera au deuxième tour, et tu en es d'accord avec moi. La seule chose, en effet, ça pose un problème. Ça pose un problème que certains partis qui sont peut-être au-dessus de 10%, d'accord, de projection, allez même à 8, ne pourront peut-être pas y aller. Il faut trouver un autre système. Il a évolué, on est passé de 100 à 500, après anonyme. Pourquoi pas mettre en augmentant, pourquoi pas, les conseillers municipaux. J'ai proposé les conseillers municipaux. Pourquoi ? Parce que dans un conseil municipal, vous avez l'opposition et la majorité. Et la plupart des conseillers municipaux sont apolitiques. Et ça, je vous assure, ça bougerait les choses. Donc, il faut bouger. Il faut proposer. Certains demandent des citoyens. Moi, je pense entre les deux, donnons aux conseils municipaux dans les villes de pouvoir apporter leur soutien.
Mais ça suppose de faire une révision de la Constitution. Moi,
mais
je
on
suis
peut
pas
faire...
opposé. Hein.
Oui, mais dans ce pays, on dit ça suppose autant.
Il m'a semblé que la révision constitutionnelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait.
Mais,
une majorité des 3/5.
Mais tu as raison. Mais sauf que là-dessus, je pense qu'on doit être d'accord. Pourquoi ? Parce que si nous ne soyons rien, il va plus. Il n'y a pas de bulletin blanc. Et le seul moyen pour un citoyen de faire, c'est de ne pas venir voter. Il faut que les gens leur donnent une diversité de choix. Et on le fait, la possibilité que pas tous les candidats, mais certains puissent se présenter. Et je pense qu'il faut réformer ça rapidement. Là, c'est trop tard. Et moi, je propose tout simplement que les conseillers municipaux, opposition et majorité, puissent parrainer sur une présidentielle.
Frédéric Dabi.
Oui, alors,
C'est vrai, et Philippe Doucet a eu raison de le dire, on a souvent eu une dramatisation des parrainages. Hein. C'était tellement fort en 2007, je crois, que l'IFOP n'avait fait une hypothèse pour le JDD en enlevant Jean-Marie Le Pen, qui s'était plaint après, mais on lui avait répondu via le JDD, mais vous ne cessez de dire que vous ne pourrez pas être candidat. Rappelons qu'en 1981, mais c'est une autre époque, Jean-Marie Le Pen n'avait pas eu ses 500 signatures. On a eu aussi aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui avait dit qu'il n'avait que 391 promesses. C'est vrai que l'absence du Parti communiste, contrairement à 2012 et 2017, parti qui a encore beaucoup, beaucoup d'élus, change la donne. Alors, c'est vrai que l'idée, on voit que s'il y a un véritable débat qui est un peu déconnecté des oppositions partisanes du clivage gauche-droite sur une réforme de ces parrainages, votre proposition, ce sera en fait que les grands électeurs, ceux qui votent pour les sénatoriales, puissent désigner. Je trouve que, enfin, à mon avis, je n'ai pas d'enquête dans ma besace, mais ça serait sans doute soutenu. C'est vrai que, par contre, là où je nuance quand même, il faut. Enfin, j'entends la logique qui est un candidat, une candidate qui fait plus de 10%, 3, 4, 5 millions de Français. S'il n'est pas candidat, ça va favoriser une certaine abstention. C'est possible, mais n'oublions pas que l'abstention a été record à une élection présidentielle le 21 avril 2002, quand, en parallèle, il y avait eu un record de candidats, je crois que c'était 16 ou 17. Donc, ce n'est pas complètement corrélé. Moi, ce qu'on a vu dans toute une série d'enquêtes, l'abstention n'est pas liée à une insatisfaction liée à l'offre électorale, elle est liée à une logique que j'appelle cas, logique de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, ça ne sert plus à rien. Voter ne change pas ma vie. Et ça, c'est particulièrement dangereux. C'est ce qu'on a vu au régional et au municipal.
En tout cas, dans ce sonore et dans cette interview par Jean-Pierre Alcavache, Anne Hidalgo répondait sur la question d'Éric Zemmour. Je le disais, Éric Zemmour est à combien 12-13 dans les sondages.
Dans les derniers, 13,5, ce qui est un score plutôt intéressant.
Donc,
il est à 3 points
du
second tour.
On ne peut pas dire qu'il est à la peine, puisque vous l'avez effectivement rappelé, Frédéric Dabi, le ticket d'entrée entre guillemets pour le second tour est plus bas que dans les échéances présidentielles précédentes. Sur la tectonique des plaques, comment on est là sur Zemmour? Ça veut dire que lui, il continue son petit bonhomme de chemin et il se dit bah, « Tiens, avec des ralliements, je peux continuer comme ça ?» Ou est-ce qu'il y a encore un débat sur bah, « Il peut y avoir, et notamment à cause des... ou à grâce, ou enfin, je ne sais pas, enfin, en tout cas, avec la question des parrainages, il peut y avoir des passerelles. » Et les passerelles, on l'a vu depuis toujours, la droite de gouvernement a dit on ne pactise pas avec l'extrême droite, etc. Nicolas Sarkozy l'a dit, d'autres l'ont dit avant lui. Est-ce qu'il y a des passerelles possibles d'une droite à l'autre?
C'est vrai que le score relativement satisfaisant d'Éric Zemmour, hein, qui vient de créer son parti politique, qui est quand même le candidat, le troublion de cette campagne présidentielle, moi je suis frappé de voir qu'il arrive toujours à avoir deux sources électorales. Dans l'enquête pour le Figaro, il arrive à capter 15% de l'électorat Fillon, 28% de l'électorat Le Pen 2017, il arrive. C'est vrai que, autant je trouve que Guillaume Pelletier a plutôt tort, au regard des enquêtes d'opinion, de dire que Valérie Pécresse n'a aucune chance, parce que c'est vrai qu'elle peut être l'arme anti-Macron dans cette logique qu'on connaît.
Je ne sais pas s'il dit vraiment ça.
Il dit qu'elle n'a aucune chance, puisqu'elle ne peut pas battre Emmanuel Macron au second tour, et qu'elle appellerait à voter pour lui dans le cas d'un second tour. Mais ça s'est quand même démenti par ce que nous disent les Français. Par contre, là où Guillaume Pelletier a plutôt raison, c'est lorsqu'il parle d'Éric Zemmour comme une sorte de trait d'union droite-droite-extrême, car c'est vrai, c'est aujourd'hui le candidat qui arrive le plus, alors à un niveau moins fort que ce qu'on avait vu à l'automne, en octobre ou novembre, à pouvoir capter ces deux types d'électorats. La question qui se pose, c'est est-ce que Valérie Pécresse va continuer à rassembler l'électorat Fillon et faire revenir au bercail? C'est alors, grâce à l'arme Ciotti, grâce aussi aux dynamiques de campagne, c'est 15% d'électeurs Fillon qui sont aujourd'hui chez Éric Zemmour.
Qu'est-ce que vous en pensez, Prisca Thévenot? Et avant de vous poser cette question, et notamment sur la façon dont la droite va avancer, quand Guillaume Pelletier, justement, ça me rappelle quelque chose, quand il dit à la fin du sonore qu'il attendait une réponse de Valérie Pécresse sur le fait que si un jour, peut-être, elle rallierait Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui vous a interpellé, ça?
Alors, je pense qu'il n'a pas vraiment entendu. C'est étonnant, je vais être en train de défendre Valérie Pécresse, mais oui, je crois qu'il n'a pas vraiment entendu.
Patrick Caram sort de ce corps.
Non, mais en fait, il faut rendre aussi à César ce qu'il y a à César, et puis il faut être honnête dans ce qu'on entend et dans ce qu'on voit. Valérie Pécresse elle-même le dit. Elle n'arrête pas de se plaindre qu'elle est la cible de la majorité présidentielle. Bon, ce n'est pas spécialement vrai, mais elle le voit comme ça.
Puis il en a pris pour son grade, Emmanuel Macron, dans les discours de Valérie Pécresse.
Oui, et puis je veux dire, elle est rentrée en campagne. Elle a fait quand même une campagne pour le congrès fermé LR, mais elle l'a vraiment fait pleinement. Elle a gagné ce congrès. Elle s'est lancée en campagne. Elle a annoncé une équipe. Je ne vois pas pourquoi Guillaume Pelletier aurait besoin de plus de preuve de sa volonté d'aller jusqu'au bout. Un moment, ça n'a pas de sens. Non, Guillaume Pelletier, ça faisait un moment, je pense, qu'il était déjà en train de regarder ce qui allait se passer. Et qu'il allait...
Du côté de lui.
Voilà, du côté
de chez Swan.
De chez Swan. Ouais, ouais. Et que voilà.
Merci de comparer. Non, mais... La comparaison est un peu hasardeuse.
Oui, très.
Pauvre Marcel
mais bon,
Proust.
Non, mais très. Mais voilà, qu'il allait chez Éric Zemmour, je pense que cet argument n'est pas très, très honnête de sa part. Après, moi, ce que j'analyse plutôt, encore une fois, ce n'est pas le départ de Guillaume Pelletier, parce que quelque part, il n'était plus chez l'Erleur depuis un moment, mais c'est plutôt tout ce que ça veut dire autour. Parce que quelque part derrière, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, ou peut-être en plus, là, on nous dit, oui, mais Guillaume, quand je regarde les tweets oui, et les retours oui. de la famille LR, c'est oui, mais vous savez, arrêtez de vous émouvoir. En réalité, Guillaume Pelletier n'était plus chez nous depuis très longtemps, parce que ça faisait très longtemps qu'il avait des idées à l'extrême droite, très chez Zemmour, etc. Alors, que dit-on d'Éric Ciotti? Éric Ciotti, c'est quand même le monsieur qui est tout le temps à la droite de Madame Pécresse, qui est son homme à penser. Elle le dit elle-même, il est à côté d'elle. Elle va reprendre un certain nombre de ses propositions.
Elle ne peut pas faire sans lui, c'est surtout ça.
Elle ne peut pas faire sans lui.
Prendre le problème à l'envers.
Voilà, elle ne peut pas faire sans lui. Et lui-même dit encore et toujours qu'il votera dans un duel Macron-Zemmour.
Il l'a redit.
Pour Zemmour, il l'a redit. Et d'ailleurs, elle, j'ai écouté très longuement, elle a fait un entretien hier sur une chaîne télévisée hier soir, elle a du mal à se prononcer aussi sur ça. On la sent empêchée. On lui dit, mais que feriez-vous si demain, vous aviez un second tour, Éric Zemmour, pardon, Emmanuel Macron, elle ne se prononce pas. Et ses porte-parole, c'est
elle
pareil.
Elle doit dire, mais non, parce que c'est moi, c'est
bah oui, non, mais j'ai eu, eu cet échange, je vais vous donner un exemple très clair.
C'est toujours pareil.
J'ai eu cet échange sur un plateau télé avec Othmane Nasrou, qui est un de ses porte-parole, et oui. Je lui ai dit, bah, moi, si vous me posiez la question, il n'a pas voulu le faire parce que ça l'embêtait de voir la réponse à l'envers. Je lui ai dit, moi, dans un éventuel duel Zemmour-Pécresse, je voterai Pécresse. Enfin, je ne vois pas quel est le mal de venir se prononcer sur une hypothèse. Mais on sent qu'il y a une gêne quand même, on sent que ce n'est pas à l'aise, on sent que les lignes ne sont pas très claires chez Valérie Pécresse.
Sur les lignes pas claires et sur les possibles passerelles à droite.
Ça, c'est la difficulté qu'a de l'écartèlement aujourd'hui de la droite entre une droite... Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est qu'Éric Zemmour se remet sur une ligne identitaire avec Buisson et tout ça. Donc, à un moment donné, il s'est aussi rendu compte que finalement... mais c'était aussi ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a intérêt à cliver. Et finalement, Zemmour est monté en puissance en clivant. Il a essayé à un moment donné, on lui a dit « sois plus cool, sois plus détendu », et tout ça. Donc bon, mais finalement, ça accroche pas. Donc il revient sur une identitaire. La difficulté qu'a aujourd'hui Valérie Pécresse, c'est qu'elle a un électorat qui est très sur une dure identitaire, sécurité, immigration, etc. Ça ne veut pas dire obligatoirement que cet électorat... et en ligne avec le Front National, parce que c'est pas obligatoirement la même classe sociale, et puis il y a un électorat, Monsieur Taureau et tous ses amis, qui sont donc qui sont pas obligatoirement aussi sur cette logique-là. Et donc du coup, elle est dans un grand écart. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que faut que finalement, elle a chez elle, a fait cohabiter. Y compris dans ses propres équipes, des positions différentes. Et d'ailleurs, ça s'est vu, y compris sur l'histoire pass vaccinal.
Ça, c'est le constat, Philippe. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette droite, pour certains éparpillée, pour d'autres rassemblée. Et du coup, on ne sait pas où on en est.
Soit elle a le talent pour dépasser ça.
Et oui, mais alors...
Soit elle a le talent en disant il faut tout faire pour abattre. Et ben, le vote utile, son arme. C'est le vote utile pour sortir Macron.
Mais ça, c'est une hypothèse, c'est un coup de poker.
C'est
la boule de cristal, en fait.
Il faut qu'elle arrive à tenir, à naviguer comme ça, à rassembler. Il faut déjà qu'elle récupère tout l'électorat de François Fillon. C'est quand même assez étonnant qu'elle n'ait pas déjà tout récupéré. Parce que François Fillon, 2017, il y avait déjà Emmanuel Macron, c'est un électorat déjà identifié, qui a été au bout, malgré... les problèmes judiciaires de François Fillon, et elle n'a pas encore récupéré tout cet électorat-là, qui est quand même son électorat de base.
Frédéric David.
Non, je partage ce que Philippe Doucet vient de dire. C'est vrai que, et vous l'avez dit également Philippe, c'est ce qui avait bénéficié à François Hollande en 2012. Pourquoi, après
l'élimination surprise de Dominique Strauss-Kahn, ça n'a rien changé au rapport de force. C'est que les Français qui voulaient se débarrasser de Nicolas Sarkozy ont changé de cheval, si je puis dire, et sont passés de DSK à François Hollande. Là, c'est vrai que quand on travaille qualitativement, qu'on fait parler les personnes mécontentes d'Emmanuel Macron, qui voudraient le voir battu au soir du second tour, il y a un problème de crédibilité chez Marine Le Pen. Il reste malgré tout les traces de sa campagne d'entre-deux-tours, du débat catastrophique de 2017. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui a un vrai socle, je le disais, d'adhésion, mais qui est extrêmement répulsif. Hein, dans l'enquête qu'on a en fait, publiée ce matin, c'est celui qui a le pronostic négatif le plus fort. On a quasiment 51% qui disent « Non, on est sûr qu'il ne battra pas du tout. Il n'a aucune chance de battre Emmanuel Macron. » Donc il reste
plus
dans
que
ce cadre-là.
Marine Le Pen.
Oui, plus, beaucoup plus que Marine Le Pen. Et c'est vrai que la présence d'Éric Zemmour a contribué un peu à recentrer, si je puis dire, Marine Le Pen. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il ne resterait que Valérie Pécresse dans un contexte où la gauche, aujourd'hui, semble aujourd'hui, je le répète, hein, ici et maintenant, très loin du second tour.
Une nouvelle pause et on se retrouve avec Frédéric Dabi, Ludovic Toro, Philippe Doucet et Prisca Tevenou. Restez avec nous sur Europe.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table la porte-parole de La République En Marche, Prisca Tevenou, le membre du bureau national du PS, Philippe Doucet, le médecin et maire UDI de Coubron, Ludovic Toro, et le directeur opinion à l'IFOP, Frédéric Dabi. Frédéric, ce qu'a soulevé Philippe Doucet il y a quelques minutes est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, on le sait, hein, il y a un socle d'anciens électeurs de François Fillon qui sont allés chez Emmanuel Macron, et évidemment, l'idée pour Valérie Pécresse, c'est de reprendre une partie de ces électeurs-là. Ce socle-là, il est comment, là, en ce 9 janvier est-ce qu'il est bien ancré en se disant que, bah, finalement, ce socle se contente du fait qu'il y a une sorte de droitisation d'Emmanuel Macron, alors que ce n'était pas forcément le cas en 2017, ou est-ce qu'il y a quand même des chances d'échappement vers une droite qui est nouvelle, qui arrive avec cette équipe qui est...
Oui.
Sur le papier nouvelle, en réalité pas si nouvelle que ça. Quand on a vu l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, il y a quand même quelques visages connus.
Oui, très clairement, vous avez parfaitement résumé le défi qu'a Valérie Pécresse, c'est faire revenir un électorat de droite qui a trouvé qu'Emmanuel Macron avait bien réformé le pays, qui trouve que sur la gestion de la crise d'un électorat de droite âgé, au-delà de l'électorat Fillon dans l'enquête dont je vous parlais, ce qui est très très intéressant, auprès des personnes âgées, c'est-à-dire le cœur du cœur de l'électorat de oui. droite, Emmanuel Macron et Pécresse sont quasiment à égalité. 28-30 ou 30-28. Oui. Donc il y a vraiment cette bataille-là. Mais vous savez, une campagne électorale, ce sont des moments particuliers où des dynamiques de campagne peuvent renverser complètement la vapeur. Prenons ce qui s'est passé à gauche en 2017. Première enquête, première vague d'enquête de notre rolling IFOP fiduciale. Benoît Hamon était à 17-18. Jean-Luc Mélenchon était à 8-9. On se souvient de comment ça s'est terminé le 23 avril. Ces moments de campagne, c'est les moments où un candidat ou l'autre va pouvoir essayer de parler pour rassembler son camp. Le premier tour, on rassemble. Mais c'est vrai que ce qui est quand même compliqué pour Valérie Pécresse, c'est qu'elle mène une bataille sur deux fronts. Ce front Emmanuel Macron, et ce front de droite, il y a très peu d'électeurs Fillon qui sont chez Marine Le Pen. L'électorat de droite chez Le Pen est parti depuis très longtemps,
oui.
Mais il y a cette attraction Éric Zemmour. Donc, parler réforme, attaquer Emmanuel Macron sur « il a fait des fausses réformes, ce n'est pas un vrai réformateur », c'est un message clairement que Valérie Pécresse a entendu lors du congrès « il a cramé la caisse », par exemple. On verra à cet électorat de droite qui est encore chez Emmanuel Macron. Et puis, bien sûr, vous le disiez, Pierre, il y a aussi des messages plus identitaires, plus sur la sécurité, pour montrer que la droite a appris des années Sarkozy, de ces 10 ans d'opposition, et est très crédible sur ces questions-là, parce que Zemmour a un atout de ce point de vue-là.
Ludovic Toro.
Oui, juste pour revenir, je pense qu'il n'y aura aucune hémorragie des cadres et LR. Là, c'est un épiphénomène, c'est quelqu'un extrême droite qui retourne à l'extrême droite. Maintenant, vous disiez un mot important, c'est la crédibilité et la réussite de tout ce qu'a pu faire un candidat. Entre Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse, il n'y a pas photo. Tout le monde dira qu'elle a sa crédibilité. Elle a bien travaillé à la région Île-de-France, d'accord ? Elle a assaini les finances, elle lance plein de choses. Donc il y a quelqu'un qui a déjà prouvé quelque chose quand elle était en fonction sur la région, une des plus grandes. Donc en termes de crédibilité, sur ces trois candidats qui pourraient arriver au deuxième tour, excusez-moi, c'est Valérie Pécresse. C'est clair, net et précis. Mmh. Les autres, c'est que des promesses. Moi, j'aime bien qu'on aille sur des faits, sur des rapports, sur des choses. On voit ce qui a été fait à la région Île-de-France, bravo, et ben on va le faire au niveau de la France entière.
Prisca Thévenot, cette droite, ces candidats de droite qui sont arrivés comme ça dans La République En Marche, un peu par défaut, comment est-ce qu'on fait pour les garder? Comment est-ce qu'on fait pour leur dire bah, écoutez, finalement, c'est quand même pas mal chez nous, n'allez pas chez Valérie Pécresse?
Ces candidats de droite qui sont arrivés à La République En Marche.
Oui, les électeurs de droite.
Oui, parce que je
les électeurs.
On m'apprend quelque
Excusez-moi.
Chose.
Excusez-moi. Non. Électeurs.
Bah, les électeurs de droite comme les électeurs de gauche, j'ai envie de dire. Parce qu'en réalité, justement.
C'est le problème du tout en même temps. C'est-à-dire électeurs de droite, il y a aussi des électeurs de gauche.
Mais en fait, c'est justement ça. C'est d'être capable de dire nous faisons ce qui est au cœur des problématiques des Français. Et un Français, en réalité, il ne va pas être monomaniaque que sur la sécurité. Il va effectivement vouloir être en sécurité et en même temps avoir un système éducatif qui fonctionne, avoir des investissements enfin mis en place dans l'hôpital, avoir effectivement des sujets mis sur le pouvoir d'achat. Donc en réalité, ce qu'il faut rappeler, c'est le bilan tout simplement. Et là, je vais rejoindre Ludovic Toro. Décidément, ce soir, on se rejoint beaucoup.
Bah, pas tellement, parce qu'il a commencé à compter vos places de prison.
Oui, puis je lui ai expliqué que c'était pas, les comptes n'étaient pas tout à fait bons.
Vous n'avez pas réussi à me convaincre. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez.
Mais voilà, non, mais ne soyez pas jaloux.
Vous me lancez dans l'arène, excusez-moi.
Mais le sujet étant, regardez ce qui a été fait au cours de ce mandat. Ce mandat, plus de 90...
Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre des électeurs de droite.
Oui, parce qu'en fait, non, des électeurs tout court. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'adresser aux Français. Et en réalité, les Français ont juste besoin de retrouver confiance en leur politique, confiance en la parole politique. Parce que pendant longtemps, on leur a fait des promesses. Et puis quand venait le moment de l'action, il n'y avait plus grand monde. Ou alors, on se cachait derrière son petit doigt en disant « c'est plus possible, c'est pas possible, ceci, cela, machin, etc. » Nous, on a vu au cours de ce quinquennat que les promesses avaient été mises en place et que même si nous avions dû faire face à une crise extrêmement importante, eh bien, ça n'a pas empêché de continuer à faire avancer la machine. Donc, c'est ça, finalement, que les Français regardent. Moi, je vais être très claire. Oui, effectivement, les Français ne sont pas complètement et pleinement dans cette campagne des présidentielles pour le moment. Pour autant, ils sont quand même très lucides sur ce qui a été fait au cours de ce quinquennat.
Depuis, ils le sont par défaut parce que même si on parle beaucoup, beaucoup de Covid, on se demande comment ce Covid, entre guillemets, va être géré à partir du mois d'avril prochain.
Exactement. Voilà. Et ça, par exemple, je ne sais plus si c'était votre institut, mais il y a aussi un sondage qui est tombé dessus en disant qui aurait fait mieux que le président.
C'était l'IFOP, JDD de ce
matin. Ils ont été aussi interrogés dessus. Et pour le coup, c'est quand même assez flagrant. C'est Emmanuel Macron qui gère le mieux cette situation, qui est quand même une situation inédite.
En l'occurrence, il est aux affaires. Philippe Doucet.
Oui, enfin moi, de ce que... Mais je pense que Frédéric Dabi me corrigera si je me trompe. La séparation entre les électeurs de François Fillon, c'est l'élection européenne de 2019. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Républicains font un choix finalement assez anti-européen. Emmanuel Macron et sa liste font un choix très pro-européen. Et à ce moment-là, une partie des électeurs de François Fillon, peut-être les plus dans le centre-droit, les peut-être les moins identitaires, décide de rejoindre Emmanuel Macron. Pour le moment, a priori, il les a gardés. Donc, et c'est à ce moment-là qu'il y a l'effondrement de la liste des Républicains aux européennes sur une ligne très dure par rapport à ça. Et donc, même l'électorat de François Fillon de 2017, il était composite. Comme aujourd'hui, vu ce qu'est la société, on a plein de morceaux d'électorat. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a gardé ses électorats François Fillon européen. Donc l'enjeu de Valérie Pécresse, c'est de savoir si elle arrive à les récupérer ou pas. Je ne suis pas si sûr que ça soit sur mesure par mesure. Les Français, ils ne suivent pas obligatoirement mesure par mesure ce qui se passe. Ils voient des tendances générales où ils se reconnaissent par rapport à leurs valeurs, à leurs projets, à leur vie quotidienne. C'est plus ça, je mets à part l'histoire de la gestion du Covid, où les gens se rendent bien compte, une partie des gens, que tout ça est très compliqué. Mais je pense que la ligne de fracture européenne identitaire, c'est aussi une ligne de fracture qui traverse la droite.
Ludovic Toro.
Oui, j'entends Prisca Thévenot qui dit que si les Français venaient à juger sur les résultats ce qui a été fait, posez un peu les questions aux citoyens. Est-ce que le système de santé est mieux dans ce quinquennat? Est-ce que l'environnement est mieux dans ce quinquennat? Est-ce que la réforme de retraite a été mise en place dans ce quinquennat? Est-ce que la sécurité est mieux dans ce quinquennat? Je suis d'accord pour poser la question aux Français
par
sur ce sujet-là.
À la droite,
demandez-leur ce qui s'est passé en 5 ans et si vraiment notre société s'est améliorée. Je pense que la réponse serait non. Maintenant, il y a cette problématique où en effet, il y a un candidat qui me fait 26% aujourd'hui et qui a fait 24% au premier tour, je vous rappelle quand même, des dernières présidentielles. C'est-à-dire que dans ce quinquennat, il n'a pris que 2 points. Maintenant, voilà. Il faudra un moment, en effet, qu'on arrive à pouvoir parler, mais c'est même pas sûr que ça puisse se faire.
Il n'est pas encore candidat, mais enfin, dans Le Parisien, il a dit oui, j'ai envie, oui, bien sûr.
Ah, c'est bien qu'on parle aussi des autres phrases, ouais, effectivement, ouais, de cette
personne qui avait... Excusez-moi, un peu de franchise.
Pardon, je l'ai lu en entier.
Alors, mais bien sûr qu'il est candidat, il a envie, il est candidat. D'ailleurs, vous ne seriez pas tous là à le défendre et à défendre son bilan si des fois il n'était pas candidat. Les citoyens se rendent compte. Mais je vous assure, Prisca, que sur la vie des citoyens aujourd'hui, dans de nombreux domaines, il n'y a pas d'amélioration. Je ne dis pas que votre candidat sera sûrement au deuxième tour. Moi, j'espère très simplement qu'il y ait quelqu'un en face de lui et que surtout, enfin, on arrête en fait, parce qu'on ne va pas voter pour Macron, on va voter contre Marine Le Pen, d'accord ? Il faudrait qu'on vote pour
quelqu'un. C'est pas vrai, ça.
Si vous voulez, c'est pas vrai. Bah, quand on fait 24% au premier tour, c'est qu'on ne vote pas pour lui, d'accord ? Ce que je veux vous dire par là.
Combien vous voudriez ?
Pour qui ?
Bah, qui est combien ? Qu'il soit à 35, 40 ?
Mais il ne sera pas.
On n'est pas dans une...
Non, c'est important. Parce
dans
que
une dictature, là.
Non, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait qu'Emmanuel Macron, sur les chiffres qu'on nous sort, sera au deuxième tour. D'accord ? Maintenant, on va choisir qui va pouvoir...
Ça a l'air de vous désespérer, Ludovic Toro.
Ah, mais bien sûr.
Bon, bah, très bien, c'est dit.
Ah, mais c'est clair, jamais... je crois que c'est clair et moi, bien sûr, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Vous me parlez de cette crise du Covid, je pense qu'elle est salvatrice.
On va en parler en deuxième heure, surtout la crise du Covid.
Là-dessus, je dirais pas mal de choses, mais en effet, globalement, sur l'évolution des problèmes principaux de notre pays, je ne pense pas qu'il y a eu une évolution qui soit bénéfique.
Une courte réponse de Prisca Thévenot et ensuite Frédéric Dabi.
Oui, ça c'est... Enfin, bien évidemment, vous êtes dans votre rôle d'opposition, vous défendez effectivement la candidature de Valérie Pécresse et c'est tout à fait normal de venir dire que rien n'a été fait sur tous les sujets qui concernent les Français, sauf que ce n'est pas réellement la réalité. Et je pense que pour avancer, il faut peut-être avoir un minimum d'honnêteté, c'est que oui, au cours de ce quinquennat, nous avons rattrapé un certain nombre de sujets qui avaient été abandonnés, délaissés par la droite. Et vous le savez très bien que déshabiller les services publics, c'est un grand cheval de bataille de la droite quand elle est au pouvoir. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse n'a eu de cesse de le répéter tout au long de ce congrès des LR. Je vais supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Déjà, je trouve que c'est un peu fort de café parce que ça voudrait dire qu'on a 150 000 personnes qui aujourd'hui ne savent pas vraiment pourquoi ils travaillent. Et de deux, elle nous dit non, c'est supprimer l'administration administrante. Déjà, ça ne veut rien dire. Et de deux, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est supprimer l'administration tout court. Et d'ailleurs, c'était le programme de François Fillon en 2016. Souvenez-vous, il avait même réussi à faire pleurer une soignante en direct sans qu'il y ait la moindre empathie en face. Donc moi, tous ces procès, je trouve que c'est très marrant, ça fait beaucoup parler, ça fait de belles punchlines, mais en réalité, ça ne fait pas avancer les choses. Regardons ce qui a été fait sur ce quinquennat de manière concrète et voyons comment aller plus loin.
Frédéric Dabi.
Oui, trois petits points. J'entends ce que dit Ludovic Toro sur Emmanuel Macron à 26-27%. C'est quand même le premier président depuis François Mitterrand qui fait un score supérieur, même si ce n'est pas énorme, à ce qu'il avait réussi en 2017. Jamais Sarkozy n'avait retrouvé ses 31%. Idem pour François Hollande, quand on pensait de lui comme candidat. Deuxièmement, vous avez raison, c'est vrai que sur son bilan en absolu, les Français se montrent sévères sur la réforme des retraites, sont sévères sur les services publics, sont sévères sur la question sécuritaire. Mais le sondage JDD montre que une présidentielle, c'est aussi un match. C'est qui est-ce qui est le plus crédible. Et c'est vrai que quand on interroge qui est-ce qui ferait mieux que lui, les résultats sont plutôt décevants pour tout le monde, un peu moins pour Valérie Pécresse, qui a le solde jugement positif, ferait moins bien, qui est le moins mauvais. Mais par exemple, c'est vrai que, et on va en venir dans la deuxième heure, la question du Covid fige les choses. Il y a 57% des Français qui disent qu'aucun autre candidat ne ferait mieux que lui. Est-ce que c'est grâce à l'action d'Emmanuel Macron ? Peut-être, mais c'est aussi le fait que dans une crise, on hésite peut-être, une crise aussi forte, à changer de capitaine au milieu de la tempête.
Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait ? On parle souvent de la gauche macroniste. Je me tourne évidemment vers Prisca, mais aussi vers Philippe Doucet. Comment est-ce que ce quinquennat qui a duré et qui se termine là maintenant d'Emmanuel Macron continue à allier cette gauche de gouvernement qui est toujours présente par l'intermédiaire de plusieurs ministres, notamment Olivier Dussopt de Territoires de Progrès, alors qu'on a cesse de dire qu'Emmanuel Macron est vraiment un président de droite.
Oui, bah après c'est l'image qu'il renvoie, il ne faut pas la renier, effectivement, si les gens l'identifient comme un président de droite, ils l'identifient comme un président
et
de
vous,
droite.
Et vous l'identifiez comment ?
Maintenant, moi je crois que je l'ai suffisamment dit, je viens de la gauche, et je me sens bien au sein de la majorité présidentielle. Et moi ce que je regarde, c'est plutôt les actions. et les résultats. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures, de marqueurs forts, notamment sur le sujet de l'éducation, qui ont été des mesures qui ont été mises dès le début du quinquennat, avec les mesures de dédoublement de classe, dispositif devoir fait, les petits déjeuners gratuits, mais également des mesures sur la famille et l'enfance, le programme 1000 jours.
C'est pas la majorité des mesures.
Non, mais attendez, il y a des choses quand même qui sont assez importantes. La PMA, l'allongement du congé paternité, il y a sur le sujet de la fiscalité, il n'y a jamais eu autant de baisse de pression fiscale sur les entreprises, côté droite effectivement, mais aussi sur les ménages, la suppression de la taxe d'habitation.
Philippe Doucet,
donc ça c'est concret pour les Français.
La gauche existe par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron ?
Il y a une partie, il faut le reconnaître, on peut le regretter ou s'en satisfaire. Il y a à peu près, Frédéric évoquait tout à l'heure, que l'électorat de gauche aujourd'hui, candidat, c'est 25%. Or, sur une règle entre extrême droite et extrême gauche, 45 à 46% des Français se réclament toujours de la gauche.
Ouais.
D'accord ? Bien. Donc, 45 moins 25, il y a 20% de l'électorat de gauche, du centre-gauche, des sociodémocrates, qui se reconnaissent dans Emmanuel Macron. Pourquoi ? Pour moi, il y a deux raisons. Il y a une raison historique où le PS n'a pas fait son travail. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'économie de marché. Il y a toute une partie de l'électorat de gauche qui se dit « Nous, on est dans l'économie de marché ». Donc, finalement, Emmanuel Macron vit avec son temps.
Ouais.
Et puis, par rapport au début du quinquennat, je pense que le Covid, par rapport à des électeurs de gauche, le Covid est un atout pour Emmanuel Macron, paradoxalement. Pourquoi ? Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est quand même une politique d'une puissance étatique extrêmement importante, parce qu'en gros, on a étatisé l'économie, les salaires, les chiffres d'affaires des entreprises, le PGE...
Pour un temps. Et la dette, il va falloir la rembourser.
Oui, mais ça veut dire que dans l'imaginaire d'une partie de la gauche française, dans l'imaginaire, l'État protecteur, eh bien l'État était protecteur. Et donc pour un certain nombre de gens dedans, voilà, vous avez cette situation-là.